On passe à l'ouest.
La nouvelle exposition temporaire du MEG, le musée d'ethnographie de Genève, a été dévoilée jeudi. Avec Mémoire, Genève dans le monde colonial, le MEG explore l'histoire de ses collections liées à l'ère coloniale et invite à la réflexion sur l'engagement du MEG envers les communautés d'origine et dans la lutte contre la discrimination. Pour présenter cette exposition qui se tiendra jusqu'au 5 janvier 2025, nous sommes avec Floriane Morin, conservatrice et responsable de la collection Afrique. Bonjour Floriane.
Bonjour.
Pour commencer, je voulais qu'on parle un peu du contexte. C'est une exposition qui est dédiée à la place de Genève, du MEG et de la Suisse en général dans le monde colonial du 18e, 19e et 20e. La Suisse n'a jamais eu de colonie, mais a quand même pris part à ce mouvement global qu'est la colonisation. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce contexte et le relier à ce que vous allez présenter dans l'exposition ?
Oui, bien sûr, c'est une thématique qui est traitée depuis de nombreuses années déjà par les historiens, dont s'est emparée la presse il y a quelques années aussi, et que les musées peinaient jusqu'à peu de temps à présenter. Et c'est vraiment très important parce qu'en effet, en Suisse, ici, on fait partie d'un contexte colonial global. Et dans les musées d'ethnographie qui sont nés de ce contexte colonial, eh bien, il y a de nombreux objets qui racontent des histoires privées, d'interactions entre des citoyens, des citoyennes suisses avec le reste du monde et qui exemplifient vraiment très bien cette période.
Et dans l'exposition, on revient sur ce contexte historique et vraiment le contexte qu'a été la colonisation, ou c'est vraiment autour des objets qui sont présentés ?
Alors les deux en même temps en fait, c'est-à-dire que c'est une exposition qui est une sorte d'état des lieux de notre histoire coloniale, hein, l'ADN du musée finalement, qui est né en 1901, mais de collections qui préexistaient. C'est aussi une exposition qui est très biographique, c'est-à-dire que les objets du musée sont au centre du propos et c'est à travers leurs micro-histoires qu'on raconte les macro-histoires, notamment celles du contexte colonial global.
Et quelle question une exposition comme ça soulève au niveau du musée, au niveau de Genève, au niveau de la Suisse ?
Alors elle pose déjà chronologiquement la question de l'implication de la Suisse, des Suisses dans l'esclavage, la traite transatlantique, elle qui est vraiment une question extrêmement importante et qui génère encore beaucoup de souffrance aujourd'hui dans les traces qu'elle a laissées dans notre société actuelle, les discriminations, le racisme, etc. Mais c'est une question qui est assez difficile à traiter dans un musée d'ethnographie parce que, évidemment, les personnes qu'on a déshumanisées, eh bien, on n'a pas non plus gardé des objets qui leur étaient liés. Donc, malheureusement, souvent dans les musées, ce sont les objets de la violence qui restent, les objets de la capture, de l'emprisonnement. Et puis, je commence par là.
Et est-ce que le musée d'ethnographie, à travers cette exposition ou à travers comment vous l'envisagez, est vu aussi comme un acteur culturel de ce contexte colonial ?
Oui, exactement. Après, une partie de l'exposition qui est plutôt consacrée à la construction des collections. Donc là, on parle d'économie globale, on parle d'investissement suisse, de finances, en fait, de la manière dont les premiers grands tourismes s'instaurent aussi. C'est comme ça que les objets reviennent vers la Suisse et vers Genève. On évoque aussi la façon dont, finalement, présenter des objets, des cultures extra-européennes dans un musée d'ethnographie au XXe siècle, c'est quelque part justifier la colonisation, étant donné que ces objets sont rapportés par des missionnaires ou font partie d'expositions où on leur assigne une identité qui n'est pas vraiment la leur, pour poser un discours civilisationnel.
Donc il y a quand même un regard autocritique sur comment le musée a fonctionné jusque maintenant ?
Tout à fait, oui, c'est un regard très important qu'on a déjà mené en fait. Hein. Le musée d'ethnographie n'en est pas à sa première introspection. Par contre, cette fois-ci dans la perspective décoloniale, qui est si présent dans notre société et qu'on doit absolument embrasser aussi dans les musées, c'était très important de pouvoir évoquer aussi le scientisme racialiste qui est à l'origine aussi des musées d'ethnographie. Hiérarchiser les personnes, les races, et bien ça, c'est concomitant parallèle à la création des collections.
Et la réflexion décoloniale dont vous parlez, c'est un sujet qui est assez brûlant, dont on parle pas mal ces dernières années dans plusieurs disciplines. Est-ce que pour construire cette exposition, vous êtes entouré de spécialistes spécialistes, vous avez fait appel à du conseil ?
Oui, alors plus que ça, en fait, c'est une exposition qu'on a montée avec une cinquantaine de partenaires qui sont d'abord des personnes qui ont étaient curateurs, curatrices d'espace qui nous ont accompagnés dans la construction des propos et de la mise en place des œuvres. Ce sont aussi des artistes qui viennent de tout près comme de très loin, et ce sont aussi des représentants des héritiers culturels de communautés autochtones qui sont en relation directe, intime avec les objets du Meg.
Et c'est une exposition sur la mémoire coloniale, mais que vous présentez comme une expo tournée vers le futur, pas vers le passé. Ça veut dire que cette exposition, elle présente aussi des pistes sur comment on expose ces objets à l'avenir ?
Oui, cette exposition, elle permet en fait, elle est en trois espaces, mais il y en a un qui...
On va en parler, oui.
Voilà. Alors, j'en parlerai après. Mais elle présente des œuvres contemporaines. Elle présente aussi les projets du MEG en partenariat avec des héritiers, héritières culturelles qui nous permettent de penser les futurs, en fait, des collections. Leur retour, ou potentiellement aussi la manière dont la propriété va changer. Voilà, il y a plein de choses. La réactivation aussi des collections. Comment est-ce que des objets peuvent tout d'un coup être réanimés, pouvoir être rejoués, par exemple. Tous ces projets qu'on mène en ce moment, qu'on mène depuis plusieurs années, qu'on voulait raconter à nos publics aussi.
Et cette question des rééditions des objets à des communautés à qui elles ont été ôtées, c'est une question qui est traitée dans l'exposition ?
Oui, totalement.
Que ça revient souvent quand on parle de mémoire coloniale.
Exactement, oui, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu raconter, à la fois avec des projets qui sont en cours et des projets qui sont déjà terminés. Par exemple, le retour d'un masque cérémoniel et d'un hochet à la Confédération des Haudenosaunis, ça c'était l'année dernière, par exemple. Et puis aussi, voilà, les projets qu'on a avec les bronzes de Bénin, par exemple.
On va parler un peu de ce qu'on voit concrètement dans l'exposition à des espaces. Vous en avez parlé rapidement. On fait juste une petite pause musique. Avant ça, on écoute Licia Cherry. Lately, you've been asking me for several second chances, and I say it's a little much, 'cause I've learned how to recognize a messy situation, and I've heard enough from you to know. est de retour avec Floriane Morin, conservatrice et responsable de la collection Afrique au Musée d'ethnographie Genève, et on parle de la nouvelle exposition temporaire dédiée à la mémoire coloniale. Et il y a un fil rouge qui relie toutes les histoires de cette exposition, je vous cite, c'est celui de la responsabilité du musée envers les collections et de son engagement à tisser sur le long terme des relations respectueuses et apaisées avec leurs héritiers et héritières culturelles. Donc on parlait du futur, on le sent bien dans cette phrase, mais on peut se demander concrètement, qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition ?
Alors, beaucoup de choses. On voit évidemment les objets anciens et plus récents des collections du MEG.
Ces objets sont mis en contexte avec des explications ?
Oui, exactement. Elle est très bavarde, cette exposition. Il y a beaucoup de choses à lire, mais c'est vrai que c'était important pour nous parce que l'idée, c'était vraiment de retracer leur biographie et de donner tous les éléments au public pour qu'ils puissent vraiment comprendre quelles sont les différentes identités et les parcours en fait de ces objets. Habituellement, quand des cartels sont très courts, on a juste une vague idée de à quoi ça servait ailleurs, autrement. Là, vraiment, l'idée, c'était de retracer tout leur voyage, en fait, et puis voilà, les violences qu'ils ont pu subir ou les silences aussi. Tout ce qu'on ne sait pas, en fait, finalement, sur eux. Et ils sont associés, ces objets, à des témoins d'archives, c'est-à-dire des documents qui vraiment plongent nos yeux dans l'écriture d'une époque, dans la manière de présenter les choses, de lister, de classifier. C'était important pour nous que ces écritures soient présentées. Et puis aussi avec les interprétations contemporaines des problématiques et des questions coloniales suisses. Et global, avec des illustrations de Kalonji, par exemple, illustrateur genevois, avec les gestes de l'artiste Mathias Pfund, qui a réinterprété des objets des collections pour leur donner un nouveau sens et faire réfléchir sur différents aspects de ces questions de réappropriation. Et puis, mille autres choses encore, voilà.
Et en termes d'espace, on en a vaguement parlé tout à l'heure, mais l'exposition est faite en plusieurs espaces, je pense au salon, collection, capsule. Est-ce qu'on peut présenter un peu ces divers lieux au sein de l'exposition ?
Oui, c'était vraiment très important la spatialité dans cette exposition parce qu'on a voulu créer d'abord une circulation libre en fait pour que les visiteurs, les visiteuses puissent choisir exactement par où ils avaient envie de commencer cette exposition ou peut-être juste de venir s'asseoir dans ce fameux salon qui est l'espace central pour lire des choses, écouter des podcasts, admirer l'œuvre de Blik Bassi qui est une installation contemporaine de casques. Ça s'appelle sonore. Le casque des coloniales, oui. Voilà. Non, elle n'est pas sonore. Ça, c'est vraiment une installation en 11 casques qui ont été. Sont des calebasses qui sont revisitées par cet artiste Blik Bassi, qui pour le coup est un musicien célèbre, mais qui a beaucoup d'autres activités artistiques. Et à chaque fois, il y a un poème qui est associé à chacun de ces casques, et c'est une sorte d'étape supplémentaire pour se décoloniser mentalement, se décoloniser l'esprit. Et puis, il y a en effet dans ce salon, et peut-être que c'est vraiment important de vous le dire maintenant, un espace qui s'appelle Passage, qui a été sous la curation de Noémie Michel, qui est une enseignante chercheuse et travailleuse artistique féministe noire. Et Noémie a réuni dans cette capsule un podcast sur le mouvement Black Lives Matter en Suisse romande, les manifestations qui ont eu lieu, des témoignages, une pièce sonore qui est très forte, qu'elle a conçue avec Netillo, qui est un artiste sonore. Et aussi une série d'affiches qui va augmenter avec le temps, en fait, durant toute l'année, au fil de conversations qu'elle va mener avec des collectifs engagés.
Et dans cet espace, le salon, il y aura aussi une espèce de programmation des événements, des conférences, ou c'est vraiment voué à rester comme ça en ce moment ?
Non, tout à fait. C'est un espace qu'on a voulu grand aussi pour qu'on puisse être nombreux à s'asseoir là et à venir partager autour de questions, d'invitations. Et là, en effet, entre mai et juin, on a déjà 4 beaux rendez-vous avec des personnes qui sont expertes des questions de la Suisse coloniale plutôt, des personnes qui sont ou historiens, historiennes, ou alors qui sont actifs dans les pratiques décoloniales et qui réinterprètent ces questions aujourd'hui, comme Chiaka Kagame par exemple, qui écrit des podcasts sur le boulevard noir.
Le boulevard noir,
ouais,
oui.
Exactement.
Et on n'a pas présenté les capsules, qui sont un autre espace. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces capsules ?
Oui, alors les capsules, ce sont les 5 espaces qui ont chacun une porte d'entrée d'une couleur différente. Et celles-ci, en fait, ces capsules, donc, ce sont comme des micro-univers, en fait, en immersion. On est en immersion à chaque fois, invité par un curateur, une curatrice, un artiste qui a créé les contenus ou co-créé avec nous ces contenus. Et ça aborde à chaque fois une thématique différente avec une collection, on va dire, qui est devenue sensible par le propos qui est tissé autour d'elle. Et vraiment, à chaque fois, on est dans une atmosphère très différente et ça permet aux visiteurs, aux visiteuses de faire le tour, en fait, d'une question autour, par exemple, des matrimoines, avec celle qui est conçue par Bensoa Sigam, ou autour des matotems qui ont longtemps été dans le jardin du musée et qui appartiennent à la culture Tsimshian. Donc, ce sont leurs héritiers, héritières culturelles qui ont créé ce contenu.
Et c'est une exposition très bavarde, vous l'avez dit, oui. Mais il y a un site d'accompagnement, Genève Coloniale. Qu'est-ce qu'on trouve comme ressources sur ce site ?
Alors, on trouve tout. En fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on a créé ce site web pour que celles et ceux qui ne pourront pas venir voir l'exposition aient accès à absolument tous les contenus. Donc, les pièces sonores, les œuvres contemporaines, les objets qui ont été prêtés, mais aussi, surtout, tous les objets du musée sont réunis dans ce site. Et puis, vous avez aussi la programmation culturelle qui sera podcastée. Et puis, les auteurs, autrices des textes de l'exposition qui les ont signés, ils sont très nombreux, nombreuses, ont pu aussi nous écrire des compléments, en fait, des approfondissements à chaque fois. Et voilà, on retrouve tout ça sur le site.
Et il y a aussi la bibliothèque du musée qui propose d'aller plus loin avec certains livres, essais, oui, qui concernent la thématique.
Exactement, ouais, il y a une bibliographie qui est proposée aussi sur le site et au MEG. Et puis un espace dans ce fameux salon où il y a toute une sélection de livres qui est là pour consultation.
Ouais. Merci beaucoup Floriane. Et on avec précise plaisir que l'exposition sera gratuite toute l'année.
Exactement.
Dans le cadre des 10 ans du nouveau bâtiment du MEG. Et l'exposition est ouverte jusqu'au 5 janvier. Donc il y a un peu de temps pour aller la voir.
Oui, 9 mois.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir. Radio-Vostok.ch